Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.
Ça vous fait rire ?
Oui, ça me fait rire. Je vais tout dire à nos auditrices et nos auditeurs. C'est-à-dire, vous m'avez gentiment offert un chocolat et je n'avais pas fini de mâchouiller mon chocolat, ce qui fait un bruit extrêmement désagréable à l'antenne. Voilà, vous savez tout maintenant.
Oui. Mais nous n'avons pas démarré avec
voilà,
ce
non,
bruit.
Ben non, nous sommes un peu pro quand même. Un peu pro. J'ai vu une à Quotidien, c'est l'émission de Barthès, là, sur, je ne sais pas, la 10, oui.
Ah ouais, vous n'avez vraiment rien à faire.
Oui, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Il y avait Bec Bédé, j'ai oublié son Frédéric Bec Bédé, voilà, qui parlait de la mort des Bogdanov. Et il a dit, est-ce que je peux avoir une théorie ? Alors, il y a une théorie là-dessus. Ça dit, en fait, les Bogdanov se sont sacrifiés, ont été sacrifiés ou se sont sacrifiés pour démontrer au vaste monde
qu'il fallait se faire vacciner. Oh, bah, ils parlent tous pour Macron, hein, c'est bien ça.
Mais je vois pas comment c'est plausible cette histoire-là. Parce que d'abord, mourir est un grand sacrifice. Mais enfin, peut-être. Hein. Mais en plus, si on veut faire une démonstration par le fait de ne pas se vacciner et de tomber malade, encore faut-il être certain que ce soit la mort qui soit au bout de la maladie. Or, ce n'est pas le cas, heureusement. Heureusement, tout le monde ne meurt pas du Covid. Tous les malades du Covid ne meurent pas, fort heureusement. Donc, s'ils avaient simplement été malades du Covid sans mourir, où aurait été la démonstration ? Enfin, voilà.
Ils n'avaient pas peur de se faire des piqûres d'autre chose pour se faire défigurer le visage. Donc, ils avaient peur de se faire vacciner.
Ouais.
Non, c'est pas très cohérent l'histoire.
Vous aviez déjà vu en vrai ?
Ben, je les ai vus quand ils étaient jeunes, ils étaient beaux.
Oui, mais en vrai, en chair et en os, si je puis dire.
Ben,
je les ai vus plusieurs fois. Donc, une fois, un salon du livre à Enghien, ils étaient à peu près installés face à la table où moi j'étais. Donc on a le temps de détailler, si vous voulez, parce que sans être indiscret, on a le temps de détailler. C'est quelque chose. C'était quelque chose.
C'est vrai.
Ah oui.
Oui, mais hyper intriguant et attachant, apparemment. Hein. Moi, je sais pas.
Oui.
Mais je trouve le truc est pas très cohérent. S'ils étaient contre la vaccination, qui nous dit qu'ils n'ont pas eu le Covid quelque temps après, qu'ils n'ont pas pu se faire vacciner, ou que peut-être qu'ils avaient un problème médical et ils ne pouvaient pas se faire vacciner, c'est peut-être ça, l'expérience.
Ouais,
et on ne va pas dire qu'ils étaient contre les piqûres avec tout ce qu'ils ont fait. Hein.
Ouais.
Je pense. Bon, donc, le quotidien, c'était bien ?
Non, je dis, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris. Il se passe aux États-Unis, Fabienne, quelque chose qui est extrêmement intéressant et qu'on pourrait développer. Il y a une vague de démissions aux États-Unis sans précédent. C'est-à-dire des salariés qui démissionnent.
Il n'y a peut-être pas de rupture conventionnelle là-bas.
Comment ?
Il n'y a peut-être pas de rupture conventionnelle là-bas.
Je ne sais pas. Ouais. Oui. Alors, mais. Il y a un professeur de Harvard, Harvard Business School,
avec la patate dans la bouche,
qui s'appelle Vincent Ponce, et il a analysé le phénomène. Et alors il y a une vague de salariés qui démissionnent, qui s'appelle The Great Resignation. The Great Resignation. Vous vous foutez encore une fois de moi.
Non. Je pars de ce studio.
Et je sors de ce studio pour aller déposer plainte pour harcèlement.
Et je démissionne.
Je résignation.
Bon, alors, ils font quoi, alors ?
Non, mais attendez, il y en a eu 4 400 000 en août, 4 300 000 en septembre, 4 200 000 en octobre, 4 500 000 en novembre et 4 millions, oui, 4 500 000 en novembre.
Oui, que des 4 millions, quoi.
Oui, oui. À chaque fois, tous les mois, il y a 4 500 000 de salariés qui s'en vont.
Et alors, ils font quoi ?
Alors, ils font quoi ? On ne sait pas trop. C'est-à-dire, ce sont des emplois peu qualifiés pour la plupart. C'est dans les services, la restauration, les bars, l'hôtellerie, enfin, les livraisons à domicile, enfin, toutes ces choses-là. Et alors, il y a deux phénomènes, nous dit ce professeur de la Business School de Harvard, Vincent Ponce. Il dit, il y a eu un effet traumatisant au moment de licenciements, vous savez, par visioconférence. Le PDG arrivait, visioconférence, il y avait 300 personnes devant lui.
Vous êtes viré.
Et il disait, voilà, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous êtes viré. Et comme le licenciement aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est du jour au lendemain, sans rien du tout, vous prenez votre petit carton, vous savez, on a vu ces images-là beaucoup, votre petit carton et vous vous cassez, et ça, les gens ont compris qu'il n'était rien, pour reprendre l'expression de M. Macron sur les quais de gare, des gens
Marc,
qui
ça change, hein, par rapport à la France.
Oui, non, mais c'est un grand changement.
C'est incroyable, vous rendez compte l'écart?
Donc il y a eu cette espèce de traumatisme-là, ils ont pris conscience que finalement j'étais... Et alors ils ne veulent plus elle seulement ça, c'est-à-dire une variable d'ajustement, infusible, on les réunit, depuis un écran, on leur dit vous vous tirez. Et puis il y a eu l'habitude qu'ils ont eue, des aides assez généreuses qu'ils ont eues pendant le confinement, pendant les confinements et tout ça. Et ils se sont aperçus qu'en fait, on pouvait leur donner plus que ce qu'on leur donnait. Et ils ont le refus de retourner aux conditions d'avant. Donc, ils ont l'impression de régresser, et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, par rapport aux aides qu'ils avaient. C'est-à-dire, il y a eu un mauvais calcul économique, je dis bien économique, un bon calcul sur le plan humain, mais un mauvais calcul économique, en donnant des aides, peut-être en les dispensant trop généreusement. Et donc, revenir à la situation antérieure, quand vous avez connu mieux, c'est infaisable. Donc ça explique ce nombre de démissions. Mais ça a un effet, ce nombre de démissions, c'est que les employeurs se sont aperçus qu'ils devaient eux-mêmes faire un effort, c'est-à-dire ils développent maintenant des systèmes de primes qui n'existaient pas et dont on disait avant qu'elles étaient totalement impossibles, intenables. Donc vous avez cette amélioration qui se fait. Mais seulement... ça décrédibilise la parole patronale. Vous savez, comme en France, au 19e siècle et au début du 20e siècle, la parole patronale s'est toujours trouvée décrédibilisée. Parce que chaque fois qu'on disait quelque chose, par exemple, le patronat des mines disait « mais non, on peut pas. Si les enfants ne travaillent plus dans les mines, on ferme les mines parce que ça sera plus rentable. » Les enfants n'ont plus travaillé dans les mines n'ont pas fermé pour autant, elles ont fermé pour autre chose. Et ainsi de suite. À chaque fois, on a dit « mais c'est pas possible de travailler moins de 48 heures. » Et à chaque fois, c'est voilà. Donc cette parole se trouve crédibilisée. Et là, ils ont ce problème-là.
Oui, aux États-Unis, en fait, il y a des collectifs, par exemple, pour les restaurants, il y a des collectifs, plein de gens qui disent, bah, de toute façon, le restaurant, s'il n'y a pas de serveur, s'il n'y a pas de cuisinier, etc., on ne peut rien faire, le restaurateur ne peut pas ouvrir son établissement.
Voilà.
Et en fait, ils demandent des augmentations et c'est du chantage.
C'est du chantage parce que vous êtes une abominable capitaliste réactionnaire.
Bien sûr, hein,
oui. Non, c'est typiquement une expression, certes, un peu brutal, mais de la lutte de classe, des confrontations d'intérêts. C'est l'éternel souci.
Oui, mais bon, il y a des gens qui peuvent parce qu'ils se sont enrichis en tenant des restaurants, mais après, il ne faut pas tout confondre avec tous les restaurateurs, etc. Il y a des pauvres restaurateurs qui peuvent pas.
Non, mais
ils peuvent pas augmenter leur salaire.
Oui, mais ça, c'est le
domaine. Donc, ils vont embaucher vous savez ce qui va se passer? Ils vont tous embaucher des robots.
Ah là, j'ai vu, de toute façon, ils vont
je crois à Paris, il y a un robot, c'est le robot qui sert toutes les boissons en brasserie.
Oui, mais ça va...
Ou alors, ce sera des self-service. Allez hop, tout le monde avec son plateau, on ira se servir.
Bien sûr, mais en attendant la situation présente, la seule solution, c'est la solution à l'allemande, c'est la concertation permanente, la négociation quasi permanente. Voilà, si on ne négocie pas, on n'arrive pas.
Il faut que les restaurateurs, ils donnent leur compte à leurs salariés, puis voilà. Dire, ben voilà, à la fin de l'année, voilà ce qui reste.
Voilà. Ça devrait être fait en France, parce que...
Exactement.
Je suis d'accord avec vous, là-dessus. Plein de gens s'imaginent que les patrons s'en foutent plein les poches, s'ils regardaient effectivement ce que gagne un patron, je parle pas du CAC 40, là, je parle des patrons qu'on croise tous les jours dans la rue, même d'entreprises qui ont plusieurs dizaines, ou vingtaines, ou voire centaines de salariés.
Et qui bossent tous les jours, 7 jours sur 7. Et quand on fait le rapport, le ratio par rapport à ce qu'ils gagnent,
qui jouent leur patrimoine, qui jouent leur santé aussi beaucoup par rapport à ce qu'ils gagnent, le ratio il n'est pas mirobolant.
Mirobolant.
Je suis d'accord avec vous.
Oh, bah pour une fois.
Oh. Ouais, je suis souvent d'accord avec vous, mais je fais semblant. Parce que comme ça, je peux garder la tête haute en disant que je ne courbe pas l'échine devant ma patronne.
Bon. On se fait une pause.
Oui.